RFI, 4h à Paris, 3h en temps universel.
Antoine Galen.
À la une de l'actualité, Mayotte, François Bayrou s'est rendu sur place. Rétablissement de l'eau, de l'électricité, fin des bidonvilles, aide aux entreprises. Voici les principales mesures de son plan Mayotte debout. Une façon de montrer l'implication du gouvernement, avec notamment une loi d'urgence, analyse de notre service politique. La Syrie, Mohamed Al-Joulani, le nouvel homme fort du pays, a nommé des anciens rebelles à la tête de l'armée syrienne. Mais des djihadistes étrangers sont également de la partie, vous l'entendrez. En Géorgie, alors que les manifestations continuent, Mikhaïl Kavelatchvili a prêté serment. Le gouvernement du président pro-russe a fait passer des nouvelles lois répressives. Et puis en fin de journal, on fait le point sur la transition militaire en Guinée. Vous avez les titres, bienvenue. Mayotte debout, c'est le nom du plan dévoilé de reconstruction présenté par le Premier ministre François Bayrou après le passage du cyclone Chido. Avec 5 ministres, il dit vouloir rebâtir l'archipel en 2 ans tout en empêchant la reconstruction des bidonvilles. Dans les grandes lignes, le retour de l'électricité dans tous les foyers d'ici fin janvier, le rétablissement de la production d'eau à son niveau d'avant-cyclone. François Bayrou tente de montrer l'implication de son gouvernement avec notamment une loi d'urgence.
Dès vendredi, pour le premier Conseil des ministres de l'année, la loi d'urgence sera présentée et transmise au Parlement dans les 2 semaines. Ce texte spécial, annoncé par le président Macron lors de sa venue à Mayotte, permet de s'exonérer des contraintes administratives pour lancer des chantiers, comme ce fut le cas pour Notre-Dame, reconstruite en 5 ans, un modèle dont le Premier ministre s'inspire.
Un établissement public de refondation de Mayotte, sur le modèle de Notre-Dame, sera décidé le 3 janvier, donnant toute leur place aux élus.
Cette fois, le délai est bien plus court, 2 ans, et le chantier pharaonique. Après la loi d'urgence, en viendra une autre, une loi de programmation présentée dans les 3 mois et devant s'attaquer aux problèmes persistants de Mayotte, l'accès à l'eau, l'immigration, le recensement de la population ou encore les bidonvilles.
Ce plan Mayotte est une manière concrète de répondre aux préoccupations.
Et François Bayrou de rappeler également qu'il a nommé un poids lourd, Manuel Valls, ministre des Outre-mer.
C'est la première fois dans l'histoire de la République que département ministériel Outre-mer a été placé aussi haut dans la composition du gouvernement confiée à un ministre d'État.
Des garanties et une ambition, comme pour afficher un sincère intérêt pour Mayotte, dont beaucoup ont douté après des polémiques à la suite du passage du cyclone.
Raphaël Delvolvé, journaliste au service politique d'RFI, a noté que François Bayrou a quitté l'archipel direction La Réunion. Et puis eux sont à Beyrouth, Sébastien Lecornu et Jean-Noël Barrot, les ministres français des armées et des affaires étrangères. Ils ont rencontré le commandant en chef de l'armée libanaise, Joseph Aoun, et passeront le nouvel an avec les militaires français de la force intérimaire des Nations Unies au Liban. La FINUL qui se dit préoccupée par la poursuite des destructions menées par l'armée israélienne dans le sud du Liban, malgré la trêve. L'actualité dans la région, c'est aussi la Syrie. Un premier organigramme de la future armée syrienne a été divulgué par le nouveau pouvoir. Sans surprise, on y retrouve des membres des groupes armés rebelles, puisque leur dissolution a été annoncée afin de les fondre dans une armée nationale. Mais la liste des combattants ayant été promus officiers compte aussi des djihadistes étrangers, Nicolas Falaise.
C'est une liste de 49 noms de rebelles promus officiers par le nouveau pouvoir syrien. Cet organigramme encore embryonnaire compte essentiellement des ressortissants syriens, mais également 6 djihadistes étrangers au moins, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui a notamment identifié un Albanais, un Jordanien, un Turc ou encore un Chinois de la minorité ouïghour. Le nouveau pouvoir syrien risque donc de devoir justifier ses choix auprès des pays d'origine de ces djihadistes, comme l'explique le chercheur Thomas Pierret, spécialiste de la Syrie.
Une fois que de tels personnages se voient confier des responsabilités importantes dans une armée nationale, je dirais qu'ils devront sans doute laisser de côté l'agenda politique qu'ils pouvaient avoir pour leur pays d'origine. Ils vont devoir, je pense, se plier à la raison d'État syrienne. Je pense, par exemple, dans le cas de la Chine, je pense qu'il sera dans l'intérêt du nouveau pouvoir syrien d'avoir de bonnes relations avec la Chine pour des raisons diplomatiques et économiques. Il devra, par conséquent, exercer des pressions pression très forte sur ses alliés hein, d'origine chinoise pour abandonner toute velléité d'opérations terroristes, par exemple, contre la Chine.
Ex-combattants rebelles, syriens ou étrangers, ces premiers cadres de la future armée syrienne ont reçu des grades. La liste compte 2 généraux, 5 généraux de brigade et 40 de colonels.
Et la Syrie où s'est rendu le chef de la diplomatie ukrainienne, il a demandé à Mohammad al-Joulani, je cite, « l'élimination de la présence russe en Syrie ». La Russie, alliée de poids de l'ancien régime de Bachar al-Assad, Moscou qui annonce un échange de 300 soldats russes et ukrainiens lors d'une médiation des Émirats Arabes Unis. La Russie dont il est question en Géorgie, le candidat pro-russe Mikhail Kavelachvili a été investi président. De son côté, l'ex-présidente Salomé Zourabichvili a finalement quitté le palais présidentiel. De nouvelles manifestations pour dénoncer le virage autoritaire du pouvoir ont eu lieu ce dimanche soir et elles vont se poursuivre malgré les nouvelles lois répressives décidées par le gouvernement. Julien Chavanne est notre envoyé spécial à Tbilissi.
Coller une affiche, plus de 300 euros d'amende. Utiliser un laser, près de 700 euros, presque deux fois le salaire moyen ici. À peine installé dans son nouveau fauteuil, Mikhail Kavelachvili a voulu promulguer en priorité ses premières lois répressives. Les pouvoirs de la police pour les arrestations et les gardes à vue sont étendus. Les licenciements de fonctionnaires facilités. Pour l'opposition, la liberté d'expression est désormais en danger en Géorgie. Mais devant le Parlement, ces menaces ne semblent pas pour l'instant freiner la mobilisation, à l'image de cette jeune manifestante.
Ils veulent nous faire peur, bien sûr. Mais ça ne marche pas, on n'a pas peur. Et on va continuer parce qu'on sait qu'il y aura toujours quelqu'un pour nous aider.
Si la police et l'appareil judiciaire sont aux mains du parti rêve géorgien, l'armée garde ses distances avec le pouvoir. Pour la première fois dans l'histoire du pays, il n'y a pas eu de parade militaire pour l'investiture du nouveau président. Julien Chavanne, Irma Inaridze, Tbilissi, RFI.
RFI, il est midi 6 à Séoul. La crise politique continue en Corée du Sud. Un mandat d'arrêt a été émis contre le président destitué Yoon Suk-yeol. Il avait été suspendu de ses fonctions pour avoir tenté d'imposer la loi martiale. Il s'agit de la première fois dans l'histoire de la Corée du Sud qu'un président en exercice est visé par une telle action de justice. Après le crash d'avion qui a fait 179 morts sur 181 passagers, la Corée du Sud qui a lancé une inspection complète de tous les avions Boeing 737-800 utilisés par des compagnies aériennes du pays. L'Organisation mondiale de la santé a redemandé à la Chine de partager ses informations sur l'origine du Covid-19. Sans transparence, le monde ne peut pas se préparer aux futures épidémies, souligne l'OMS. La transparence chinoise remise en question, l'OMS lui reproche d'avoir dissimulé ses données. 5 ans après, la pandémie a tué plus de 7 millions de personnes à travers le monde. En Guinée, la page de la transition militaire ne se fermera pas en cette fin d'année. Initialement, c'est mardi que devait s'opérer le retour à l'ordre constitutionnel. Finalement, le gouvernement confirme que la date butoir ne sera pas tenue et aucune nouvelle échéance n'a été annoncée. La plateforme des Forces vives de Guinée annonce qu'elle ne reconnaîtra plus les autorités transitoires dès mardi et appelle à manifester à Conakry lundi prochain. Alors que l'année se termine dans un climat tendu, on fait le point sur l'évolution de la transition guinéenne avec Sidi Yansané.
Peu après sa nomination en mars dernier, le Premier ministre Bahoury annonçait sur RFI que la durée de la transition dépendait des actions sur le terrain, avant de souligner que 2025 était une bonne période pour couronner l'ensemble du processus. Mais alors que s'ouvre la nouvelle année, aucune des 10 étapes majeures du chronogramme de la transition ne sont achevées. Selon député, le recensement administratif à vocation d'état civil, toujours en cours, et l'élaboration de la nouvelle constitution, bloquée au stade d'avant-projet depuis 3 mois. Et ce, malgré l'engagement du président de transition Mamadi Doumbouya de tenir le référendum avant 2025. Cette année, à la veille du dernier sommet de l'OIF, le ministre des Affaires étrangères Maurice Nda Kouyaté avait assuré au Conseil permanent de la francophonie que toutes les élections en Guinée se tiendraient dans l'année qui commence, mais aucune date n'a été précisée, alors que les partis d'opposition et le mouvement citoyen FNDC annoncent une série de manifestations à Conakry à partir de lundi prochain.
Un peu de sport avant de fermer ce journal. En football, 3e défaite de suite en Première Ligue pour Manchester United qui s'incline face à Newcastle 2-0. Les joueurs de Ruben Amorim sont 14e du championnat. De son côté, Chelsea manque de réalisme et perd 2-0 face à Ipswich. Et puis dans le Vendée Globe, cette course autour du monde à la voile, Charlie Dalin est repassé devant Johan Richaume. Mais les deux skippers restent au coude à coude dans la remontée de l'Atlantique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté.